Salut tout le monde, bienvenue à la brigade, je m'appelle Jean-Philippe Faure, en compagnie de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Villeneuve, ainsi qu'un invité spécial ce soir, Marc Legault. Marc, bienvenue à la brigade.
Hey, merci de me recevoir, vraiment content.
Marc, rapidement, comme ça on te connaît, du 147 Outaouais, t'animes le local sportif tous les mardis, donc où Pascal fait des interventions sur les Sénateurs d'ailleurs. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas de l'Outaouais ou de la région d'Ottawa-Gatineau, qui est Marc Legault, si t'avais à nous dire ça vite, vite?
Oui, parce que juste avant, là, pour ceux qui sont de l'Outaouais, connaissent très bien Marc. Écoute, moi, je suis arrivé dans la région en 2004. Puis j'écoutais la radio, moi, où j'écoutais toujours la radio parler au Saguenay avant d'arriver ici. Puis ici, je syntonisais, puis je cherchais les postes. Puis dans ce temps-là, c'était sur le AM, c'est JRC 1150. Fait que c'était ça que j'écoutais. Puis avec les années, ça a transféré au FM, puis tout ça. Puis tous les matins, j'écoutais. Puis genre, puis là, je me disais, il y avait un chroniqueur qui venait parler. Puis je disais, Colin, c'est pas un gars de Montréal. Ça, c'est pas un chroniqueur de Montréal. Ça se peut pas. Il me semble qu'il parle. Il me semble qu'il a les mêmes opinions que moi, tu sais. Il me semble qu'il fait pas tout le temps juste parler des Canadiens puis n'en parlant bien puis Fait que je me disais, lui, il est différent, lui, il est pas pareil. Depuis toutes ces années-là que je l'entendais, puis plus tard, on s'est connus un peu parce que nos gars ont joué dans la même équipe de hockey puis tout ça, puis nos chemins se recroisent encore aujourd'hui. Fait que certain que les gens de l'Outaouais t'ont déjà entendu, mais c'est ça. Pour les autres, là, on sait que t'as joué au hockey. D'ailleurs, ouais. T'es un gardien de but.
Ben, je suis un gars de l'Outaouais qui demeure encore dans l'Outaouais. J'ai jamais quitté comme tel. Puis j'ai eu la chance, Pascal l'a mentionné, là, j'ai joué au hockey junior majeur, mais j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe de ma ville, les Olympiques de Hull à l'époque, là, qui sont maintenant les Olympiques de Gatineau. Je me suis promené pas mal, là. J'ai vécu dans mes valises junior majeur pas mal, mais mettons, 3 de mes 4 ans ont été passés du côté des Olympiques. Ce qui fait que quand tu joues chez vous, t'es un gars de la place, c'est clair qu'il y a des retombées par la suite. Hein. Il y a encore du monde qui me parle de ces années-là. Et j'ai le goût de dire que ça m'a peut-être aidé à me plugger une job dans les médias parce que j'avais un nom qui était un peu connu. Là. Je ne veux pas dire que c'était une vedette, et loin, loin, loin de là, mais à l'époque, il n'y avait pas de sénateur, donc les Olympiques, c'était la grosse chose, les médias les couvraient et tout ça. Et je connaissais un peu Michel Langevin qui animait une émission de sport à ce moment-là. Là, écoute, c'était-tu CJRC 1150, c'était-tu c'est quoi à l'époque, c'était-tu 147, c'est la même station qui a changé de nom là, dans les 20 dernières années.
Puis d'antenne,
mais, ma femme avait vu un article dans Le Droit qui disait, hey, ils vont avoir un show de sport. Moi, j'ai tout à triper, là. Autant je tripais pour faire une carrière de hockey, mais j'étais un maniaque de sport et j'étais un maniaque des médias sportifs. Donc, elle me dit, hey, tu devrais y écrire pour offrir tes services comme recherchiste. Parce que moi, dans ma tête, la radio, c'est énorme, là. T'as 7-8 personnes qui fouillent puis qui te filent dans l'onde pis ça. J'ai déchanté assez vite, là, mais quand même. fait que j'écris à Michel. J'ai dit, écoute, t'as-tu besoin d'un recherchiste pis ça? Il m'appelle, il dit, c'est moi le recherchiste. C'est moi l'animateur, c'est moi le producteur, c'est moi le metteur en onde. Là, je fais absolument tout. Mais j'ai besoin de monde pour faire des chroniques. Tu serais-tu intéressé? Chaque lundi, je te donne 15 minutes, sujet libre, tu parles de ce que tu veux. Puis ça a commencé comme ça. Puis 21 ans plus tard, ben je suis encore là. Évidemment, ça a évolué un peu. Puis j'ai eu une couple de chance là, parce que Michel, à l'époque, les droits des sénateurs d'Ottawa étaient sur nos ondes. Michel était le descripteur. Oui. Puis je me souviens, un mois après, le début de ma carrière médiatique, l'analyste n'était pas là, donc j'ai fait quelques matchs à l'analyse des sénateurs d'Ottawa, ça a bien été. Puis j'ai eu une job là, de reporter pendant 5-6 ans où est-ce que je faisais les entrevues pendant les périodes et tout ça. J'ai même, lorsque Michel l'a quitté pour Montréal, j'ai même décrit une demi-saison la description des sénateurs d'Ottawa. Donc, ça m'a donné de l'expérience un peu. Maintenant, je décris les matchs du Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football depuis 2014, depuis leur arrivée dans la Ligue. Puis j'ai une chronique à tous les matins. Tous les matins dans le show matinal, j'ai une chronique, un commentaire sportif. Et puis depuis l'an passé, j'anime le local sportif à tous les mardis sur nos zones. Pascal, tu l'as mentionné, qui fait des interventions très appréciées d'ailleurs. Donc c'est un peu comme ça que ma carrière a commencé. Honnêtement, c'est vraiment un coup de chance. Là. C'est un appel pour offrir mes services de recherchiste. Je me suis retrouvé en onde directement. Il faut croire qu'ils ont aimé et que ça a bien été. Puis je me retrouve encore là-dedans. Puis honnêtement, c'est pas du travail ce que je fais. Même mes commentaires sportifs, le monde dit « Hey, ça doit être long, fouille. » Je fouille pas. Je suis pareil. Tout ce que je parle, je le suis pareil. Je vais aller lire dessus, ça va m'intéresser. Donc, c'est absolument pas du sport. Donc, c'est vraiment un métier qui est fascinant. C'est pas ma vraie job, là. J'ai un fonctionnaire au gouvernement fédéral dans la vraie vie.
Qui l'est pas dans la région, là.
Exactement. Je pense qu'on est obligé. Sinon, tu peux pas demeurer en Outaouais, mais mettons que ça prend une grosse partie de ma vie vraiment intéressante.
Là, Marc, t'as dit quand tu joues au hockey, les Senteurs t'es pas dans la ligue, les Senteurs sont arrivés dans la région, t'es un gars de Gatineau, ton cœur bat où? Bat vers quelle équipe?
Sais-tu, moi j'ai bien aimé Patrick Roy. Je vais te dire, ça a commencé, là, j'ai bien aimé Andy Moog avec les Oilers d'Edmonton. Je pense que vous l'avez connu un peu. Là. Oui. Il a joué un peu avec le Canadien. Oui, j'ai toujours aimé ce gars-là. Donc, évidemment, j'aimais un peu les Oilers. J'ai adoré Ron Extall. J'ai porté le numéro 27 longtemps. J'ai bien aimé les Flyers de Philadelphie. J'ai bien aimé Patrick Roy également. Je suis pas un fan, je suis pas un partisan d'une équipe comme telle. Honnêtement, là, je suis un partisan, moi, des histoires. Des fois, il y a des développements d'une saison qui fait qu'une équipe est intéressante à suivre, qui fait que je vais m'intéresser à ça. Donc, je ne suis pas nécessairement un partisan. C'est clair que comme chroniqueur de sport, puis je fais la joke depuis une couple d'années maintenant, le fait que les Sénateurs et le Canadien ne sont pas en série, c'est tough. Rendu au mois d'avril, là, parce que tu as de la copie pendant 2 mois, tu as des histoires, puis là, ils ne sont jamais là. Donc, c'est un problème. C'est clair que j'ai un petit parti pris. J'aime bien que les Sénateurs fassent bien parce que je trouve ça important pour une ville d'avoir un sport majeur qui fonctionne. Je trouve ça important. Donc, dans ces conditions-là, je ne souhaite pas de mal à ces formations-là, puis je vais la suivre plus attentivement parce que c'est l'équipe de ma ville. Mais je ne suis pas un fan d'une équipe comme telle. Comme par exemple, j'étais un maniaque des Expos de Montréal, mais un maniaque, là. Un fan fini.
Okay.
J'ai jamais retrouvé ça au hockey, j'ai jamais retrouvé ça dans d'autres sports non plus.
Puis ça fait mal quand notre équipe s'en va. Hein? Moi, je l'ai vécu avec les Nordiques.
Oui, tu as raison.
Je
suis pas encore revenu.
Puis c'est le message que j'envoie aux gens d'Ottawa des fois, comme faites attention à votre équipe, faites-y attention, allez la voir, encouragez-la. Même si les résultats ne sont pas là, c'est un privilège. Puis quand ça part, regardez comment c'est presque impossible à ramener, c'est des exceptions. Là. Ce que Winnipeg a réussi à faire, c'est tellement rare que faut faire attention à nos équipes.
Mais où est la ligne entre le privilège, puis maintenant on est tanné, là, tu sais?
C'est une ligne qui est floue. Ouais. Non, mais t'as raison. C'est exactement ça. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas faire rire de toi. Tu veux pas supporter. Non, c'est dispendieux. C'est du temps. C'est de l'investissement, autant financier que au niveau du temps. C'est mental. Mais ça a l'air bizarre. Mais regarde je regardais les partisans des Lions de Détroit en fin de semaine dans la NFL. 30 ans sans match de série à domicile.
Fourette.
32 ans sans victoire. Avec une minute à faire, le monde pleurait dans les estrades. Puis quelqu'un de l'extérieur qui suit pas le sport dit « Hey, tu parles d'une gang de crinqués, de malades. Qu'est-ce qu'ils font là pleurer pour une équipe de sport? » Ouais, mais quand tu t'attaches, puis quand tu investis du temps puis de l'argent, à un moment donné, tu veux que ça débloque puis que ça fonctionne. Puis c'est clair que la journée que les Sénateurs d'Ottawa, si ça arrive, gagnent une finale de la Coupe Stanley, il y a du monde qui vont être émotifs dans la région. Mais c'est sûr et certain. Donc, tu sais, c'est de l'investissement, mais quand tu vois ce qui se passe après tant d'années puis que ça fonctionne, on dirait que tu oublies les 10, 15, 20 années de misère. Puis tu dis, c'est ça un club professionnel. Fun d'avoir ça dans notre ville. Tu sais.
Ça me rappelle, moi, dans le temps de la division canadienne, où c'était tough, puis les matchs étaient tard, puis c'était contre Winnipeg. Puis, tu sais, Philippe était avec moi dans le sous-sol, puis il me disait, pourquoi qu'on écoute encore ça? On est-tu fou?
On est masochiste.
Je disais, Phil, c'est dit, quand ça va bien aller, là, tu vas t'en rappeler de ça, puis tu vas avoir vécu ce bout-là, puis tu vas l'apprécier 100 fois plus.
Tu vas avoir payé tes dus comme les joueurs le font.
Sauf que dans ce temps-là, avec le recul, on pouvait se dire, ça va mal, mais éventuellement, ça va bien aller.
Mais ça va bien aller.
Ouais, non,
aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de se le dire, ça. Là.
Honnêtement, c'est pas évident parce qu'il y a des attentes. Il n'y avait pas d'attente, tu as raison. Hein? Puis les gens, c'était quasiment le fun de suivre les prospects. Là. Tu sais, tu voyais des joueurs arriver.
C'est ça.
Tu regardais le développement, tu n'avais aucune attente parce que tu disais l'équipe gagne, perd, peu importe, c'est pas grave, on n'est pas rendu là. Hey, la progression est le fun des joueurs. Ça, tu sais, tu trouves une raison, tu suives ton équipe, puis tu trouves des. Parce qu'à un moment donné, tu décrocherais assez vite.
Sauf
que là, ça fait 2 ans qu'il y a des attentes qui sont en place et c'est même pas proche de ce que les gens attendent. Et c'est là que ça commence à faire mal. Puis moi, j'ai tout le temps dit, la journée qu'il va y avoir. Moi, je trouve ça correct que les gens critiquent, que les gens chialent, que les gens jettent des chandails sur la patinoire, que les gens sont en furie, parce que ça veut dire qu'ils sont encore là. Ça veut dire qu'il y a de la passion qui sont
exact.
Là. Lorsqu'ils vont être indifférents, pose-toi des grosses questions. Peu importe ce qui se passe, la journée que ton public est indifférent, t'es dans le trouble. Et pas à peu près, parce que ça, c'est dur à gagner. C'est sûr que tu peux l'avoir s'il se passe quelque chose de phénoménal, mais tu peux pas rendre ton public indifférent. Donc, de voir les partisans frustré, fâché, mais impliqué encore, c'est encore un bon signe selon moi.
C'est ça. Puis c'est pas le temps pour les joueurs de dans ce temps-là, d'envoyer promener les partisans. T'sais, justement, il faut qu'ils réalisent ça. Là.
Parce qu'on est en territoire de on commence à perdre intérêt tout le monde. Là.
Ça commence. Ça commence, ça commence à faire mal. On a, tu sais, on le voit là, ces réseaux sociaux, le monde qui dit, oh, je l'écoute plus. Même entre nous autres, des fois, à JP Fortin, souvent des games, t'écoutes plus, ça te tente plus. Regagner ça, c'est tough. Aller regagner ça, c'est tough.
Parce que, tu sais, non seulement on, tu sais, les sénateurs ne respectent pas les attentes prévues initialement, mais
ouais, puis ils régressent,
les matchs ouais, ne sont même pas intéressants. Hein.
Tu mènes 4-2.
Tu sais, quand on mène 4-2, puis, tu sais, je pense qu'il y en a un qui nous a texté hier, puis on mène 4-2, puis on est surpris de ça. Puis il y en a un qui a écrit dans les commentaires, soyez pas surpris, ils vont perdre 6-4. Ça a fini 7-4.
Ah oui.
C'est ça, on appréhende déjà ce qui va se passer parce qu'on connaît l'équipe. Fait que c'est rendu là, c'est vraiment plate, là, c'est épouvantable.
Puis ça, c'est lourd, hein, c'est plate, là. Mais tu veux pas aller de ce côté-là dans certaines formations parce que peu importe la ligue, là, trouve-les, là. Il y a toujours 3-4 formations, 3-4 concessions par ligue qu'ils ont la. C'est des perdants. Pour toutes sortes de raisons, on dit, tu t'attends au pays. Les Red Sox de Boston, longtemps, avant qu'ils se mettent à gagner des championnats, là, les gens, tu lisais ce qui se passait dans les médias de Boston. Ils mènent une série 3-1, oui, mais ils vont en perdre parce qu'il va arriver telle affaire. Puis ça rentre dans la tête, puis il y a des formations, on dirait que ça devient dans la culture, c'est engrainé dans le monde.
Tu changes les joueurs, tu changes les coachs.
Ouais, ça change tout, puis ça change absolument rien à la philosophie de l'équipe. Ça, c'était peurant quand ça s'en vient là. Tu sais, du côté des sénateurs d'Ottawa, on n'est pas encore dans ce territoire-là, parce que c'est pas une concession que tu peux dire qu'ils ont été mauvais depuis le début de leur arrivée dans la Ligue nationale. Au contraire, à un moment donné, c'est une franchise modèle, ça. Tu sais, les sénateurs, là, pendant plusieurs années, tu regardais ce qu'ils faisaient avec un budget limité, avec le développement des joueurs, leur pêchage, c'était carrément une franchise modèle dans la Ligue qui était dans le coup à chaque année. Donc, ça a déjà existé, ce qui fait que t'es pas considéré comme une formation comme les Blue Jackets de Columbus qui, on dirait que c'est clair qu'ils vont perdre à tous les années, peu importe ce que tu fais. Mais faut pas que ça soit 5-6 ans encore comme ça, parce que là, on rentre dans un territoire qui est dangereux.
Mais je pense que c'est pour ça que ça fait aussi mal maintenant.
Oui.
Moi, quand j'étais enfant, puis que je suivais l'équipe, on dit quand t'es enfant, tout est tellement plus intense aussi, là. Puis tu sais, je parle de 2003, ces années-là, sous Jacques Martin, gros, trophée du président, on avait tellement une équipe dominante, on en gagnait des matchs, là. On était fort, on était bon. Puis moi, j'ai été gâté à commencer à suivre cette équipe-là à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, là, je me dis, tabarnouche, on va-tu retourner là un jour? C'est-tu même possible?
Fais le contraste avec Phil, qui, lui, les écoute là, depuis le plus loin qu'il se rappelle. Il se rappelle un peu 2017, un peu, tu sais. Puis là, il y a un TikTok là-dessus, il suit, il fait des articles, puis ils ont jamais fait les séries depuis ce temps-là. Contraste ça à ta jeunesse où c'était une équipe fantastique, tu sais. Ben c'est ça, c'est des cycles, puis ce bas-là, il fait mal, parce que là, on commence à se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait, là?
On rebuild?
Wow, pas rebuild, wow, là? Wow. On retool? Un retool de combien de temps?
Une question.
En tout cas.
Moi aussi, j'ai une question pour vous, d'ailleurs. Charles, je vous coupe, parce que là, on s'égare. On a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Ma question de la semaine, je vous l'ai posée sur Twitter, sur les médias sociaux, et je m'en vais complètement ailleurs ici, là, et on y reviendra tantôt. J'aimerais qu'on parle du match des étoiles qui s'en vient prochainement. La question pour vous, est-ce que le match des étoiles a encore sa raison d'être, premièrement? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être changé pour susciter un peu plus d'intérêt, là?
Ben, il y a sa raison d'être pour la Ligue. La Ligue en a besoin, mais les partisans. Je pense pas qu'il y a beaucoup de partisans qui.
Ben, c'est un événement pour les jeunes.
Je pense que c'est sa raison d'être pour les jeunes.
C'est ça. C'est ça.
Pour les enfants.
Les marchés qui l'accueillent en bénéficient.
Mais t'as peu, là, les joueurs vont se battre pour un prix $1 million en gros d'habileté.
Ouais. Je pense pas que ça change grand-chose, honnêtement. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, on en fait la promotion. Évidemment, on mousse beaucoup ça. Et on présente ça dans des marchés qui, souvent, c'est le seul match de hockey qu'ils vont voir pendant la saison. Parce que c'est le match des étoiles. On va regarder ça. C'est clairement pas du vrai hockey. C'est pas ce que la Ligue représente. Ce qui fait que ces gens-là regardent ça une fois par année puis ils se disent, c'est ça la Ligue nationale de hockey. Donc, on passe à un autre appel. C'est pas une belle façon de mousser ton produit. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour ramener ça? Je pense que dans le contexte actuel, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que, allez voir sur YouTube là, les matchs des étoiles des années, mettons, 80, 81, 82. Ça joue au hockey, là. Ça joue au hockey pour vrai.
C'est ça, contre West.
Oui, exactement. Les bonnes vieilles uniformes, là, orange, noir et blanche avec les étoiles. Mais ça joue du vrai hockey parce que c'était ça. Puis moi, je pense qu'avec l'augmentation des salaires, un moment donné, il y a des joueurs qui ont dit « Hey, je veux pas me faire arracher à la tête d'un match d'étoiles. J'ai-tu vraiment besoin de ça? » Le hockey, maintenant, c'est 12 mois par année. Là, t'es plus tes vacances de 3 mois pendant l'été puis que t'arrives avec un sac de poubelle au camp d'entraînement pour perdre 10 livres. C'est pas comme ça. C'est 12 mois par année. Donc, tes 3 jours de congé, t'es veux peut-être pour toi tes 3 jours de congé au lieu d'aller serrer des mains puis d'être encore sur la patinoire. Puis ça a changé l'attitude.
Ben, c'est ça.
Tu sais, le nombre de désistements avant un match des étoiles qui tiens.
Le monde veut
sont
y aller.
Blessés. Ben non, sont blessés, mais ils reviennent le match après. Je sais qu'il y a un règlement maintenant que si t'es blessé pour le match des étoiles, tu peux pas jouer le match au retour du match des étoiles parce que tout le monde le ferait. Mais il y a bien des organisations qui disent à leurs joueurs, c'est pas grave, là. Tu sauteras ce match-là, nous on veut te revoir en forme. Donc, comment tu veux ramener ça? J'ai aucune idée. Moi, je ferais peut-être une fin de semaine d'habileté, tout simplement. J'enlèverais le match. J'enlèverais le match un peu comme... Je pense que la NFL est rendue comme ça maintenant parce que les joueurs jouent même pas. Tant qu'à dénaturer le produit, vas-y avec les habiletés. Puis ça,
c'est ça.
Un peu déçu de certains joueurs. Tu sais, y a certains... Les joueurs, on dirait qu'ils veulent même pas se forcer là-dedans. À un moment donné, ça, je pense qu'il y a un peu d'honneur, puis un peu de décorum, puis il y a quelqu'un qui doit se lever pour dire, écoutez, on présente quelque chose d'intéressant. Mais malheureusement, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça. J'ai aucune idée.
Si tu veux avoir... Les habiletés, si tu veux avoir les plus rapides, amène les plus rapides. Amène pas les quelques-uns qui ça donne. C'est ça. C'est Brady Kachuk, Thomas des Étoiles, ils gagneront pas cette compétition-là, je te le jure. Puis, fait je sais pas comment est-ce que. Puis oui, parce que moi, le seul intérêt que j'ai, c'est le concours d'habileté. Il y a juste là que je me dis, je vais le regarder un peu parce que sinon, le reste, c'est du 3 contre 3, de demi-équipe, de demi-période, de un contre l'autre. Après ça, je suis même pas capable de suivre c'est quoi qui se passe. Effectivement, la seule chose, ce serait peut-être le concours d'habileté. Tu sais, le concours de coups de circuit au baseball, tu sais, ça poigne, ça, c'est populaire. Le monde aime ça, le monde regarde ça.
Moi, j'aime bien la présentation des joueurs. C'est la seule affaire. J'ai hâte de voir qui va se faire ruer.
Le match des étoiles au baseball, il y a un enjeu, par exemple.
Plus maintenant. On l'a enlevé maintenant. Sauf que s'il y a un sport que tu ne peux pas dénaturer, c'est le baseball. Ce que tu vois, c'est le lanceur qui va lancer une courbe, une balle à effet, qui va lancer une rapide à 102 000 à l'heure, parce que c'est ça le baseball. Puis, il n'y a pas. Tu sais, c'est pas un sport de contact. Donc, quand tu regardes un match des étoiles, c'est les meilleurs qui jouent comme des meilleurs. Donc, c'est peut-être pour ça que le match d'étoiles au baseball va chercher. Mais tu regardes dans la NBA, tu regardes dans la NFL, c'est le même problème. Là.
Ouais.
C'est absolument atroce. Ouais. C'est pas le vrai
problème. Ça revient justement à ce que Pat Tourangeau, notre ami Pat, nous a répondu sur Twitter. Le seul match des étoiles qui fonctionne, c'est celui du baseball, justement parce que les joueurs peuvent se donner à fond. Puis je pense que c'est un peu ça le problème, puis on en a parlé. Si on avait une vraie game de hockey où Connor McDavid et Austin Matthews se donnaient à fond, Ça pourrait être intéressant.
Ça serait spectaculaire. Si tu veux remonter ton produit,
exact.
Ça serait tout simplement spectaculaire. Maintenant, il faut qu'il y ait une petite carotte au bout de la ligne pour les joueurs, pour les inciter à jouer. Tu sais, je sais pas si vous êtes assez vieux pour ça, mais souvenez-vous de Rendez-vous 87, qui avait été... Tu sais, on avait remplacé le match des étoiles dans la Ligue nationale par une équipe d'étoiles de la Ligue nationale qui jouait contre les Russes à l'époque où est-ce que c'était vraiment la bonne vieille Union soviétique. Ça avait été du hockey extraordinaire. On avait joué deux matchs du côté de Québec. Ça avait été spectaculaire parce que là, une question d'honneur.
Les communistes.
T'es un pays contre les meilleurs joueurs, donc il y avait une question de fierté. Mais après ça, oublie ça. C'est jamais revenu quelque chose d'intéressant. Puis je pense qu'il n'y a pas de formule miracle non plus. Là.
Parce que je me souviens, il y a eu l'Amérique contre le monde. Il y en a eu des formules qui ont essayé. Là.
Ils n'essayaient pas de nous parler à nous autres. T'sais. Nous autres, on est peut-être pas les bonnes personnes pour répondre à cette question-là. On est déjà engagés dans la Ligue nationale. On les suit, on est intéressés, on est ici, on est ça. Le match, c'est pas pour nous autres.
Marc, je fais une parenthèse. Est-ce que tu as vu la vidéo de Olivier Bjorkstrand à Seattle qui se fait annoncer qu'il s'en va au match des étoiles? Non. Tu iras voir ça sur les internets. Ouais, le vidéo parle de lui-même. En fait, l'entraîneur dit qu'il est sélectionné pour aller faire le match des étoiles. Avant qu'il dise que tu t'en vas au match des étoiles, il demande qu'est-ce que tu fais durant ton week-end de vacances pis tout. Puis Oliver Bjorkstrand, il répond qu'il avait loué un petit Airbnb à San Diego avec sa famille et tout. Et là, son entraîneur, il dit « Ben, je veux pas te décevoir, tu vas devoir canceller ça, faut que tu prennes un billet d'avion pour Toronto, t'es sélectionné pour le match des étoiles. » Oliver Bjorkstrand, il répond, il fait « Oh, wow. » Il est déçu, ça ne tente pas d'y aller.
Mais non, écoute, San Diego, Toronto, dans la neige, l'hiver, avec les
médias. Imagine que tu dis ça à Claude Gilles.
Ça ne tente plus.
Ouais.
Marc, est-ce que tu es fan de bière de microbrasserie?
Hey, moi, là, je suis un gars de bière liquide qui goûte l'eau. Vraiment, là. Sinon, vous me perdez. C'est carrément, vous me perdez.
Ben, puis c'est pas... Écoute, Cinquième Barra, c'est une microbrasserie. Puis c'est vraiment pas pour parler en mal de leur bière. Mais...
Hey, elle est bonne, elle est bonne. Pascal, tu nous en as amené, par exemple, au 147. Elle est bonne. J'ai écouté. Ouais, oui, elle est bonne. La partisan,
là. Toutes leurs bières à date se boivent très bien. Tout ce qui n'est pas trop dans les bières foncées, des bières trop brunes ou des bières à date. Moi, je suis un peu comme toi, là. Moi, je dis que je bois de la bière de fille, là. Je bois de la IPA. C'est plus loin que je vais aller, là. Puis il faut pas trop qu'elle soit amère. Mais à date, Cinquième Baron, je n'ai pas pogné une de mauvaise.
Alors, tout pour dire qu'on vous rappelle que le Cinquième Baron vous insiste à assister à un match des Sens à la brasserie. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ou suivre directement la brasserie sur Facebook ou sur Instagram pour avoir le calendrier exact des matchs qui seront diffusés. Aussi, je continue avec notre partenariat avec le blog Silver Seven. On vous rappelle qu'il y a du contenu en français offert en collaboration avec la Brigade. Cette semaine, Stu se pose la question... comment est-ce que c'est possible que les performances soient pires sous Jacques Martin que sous DJ Smith? Alors, allez le lire. En fait, l'article est déjà sorti au moment où l'épisode est sorti.
Il répond à la question ou il fait juste la poser?
Ah, on va voir. Il faut aller le lire pour le savoir.
Parce qu'on s'la pose un peu toutes.
On s'la pose un peu toutes. JP Fortin, qu'est-ce qu'il y a cette semaine dans ton warm-up?
Malgré tout, un gros warm-up dans la dernière semaine des Sens. On parle des déboires de l'équipe. Donc, la fiche des Sens depuis le 1er décembre, c'est 6 victoires, 15 défaites. Et les Sens,
pour avoir la fiche... Dis-le-même, on dirait que ça fait
encore plus proche de jouer pour 500, ouais.
Ça. Je tourne un couteau dans la plaie. Puis, pour avoir la même fiche que l'année passée, les Sens devront avoir d'ici la fin de l'année une fiche de 24 victoires, 11 défaites et 8 en prolongation. Tout ça pour avoir une fiche similaire à l'année passée.
À partir du 1er décembre.
À partir de là. Okay. Les Sénateurs sont la pire équipe aussi. Là, je rajoute, là, je tourne le couteau dans la plaie maximum. Là. Je commence avec le négatif.
On sent plus rien.
Avec le positif. Les Sénateurs sont la pire équipe dans les buts accordés dans la Ligue nationale depuis décembre. On a eu le retour au jeu de Mathieu Joseph. Malheureusement, on a perdu Josh Norris. Mais de la façon qu'il jouait dernièrement, certains diront que c'est pas une grosse perte. Shane Pinto est de retour au centre Canadian Tire et on attend toujours de ses nouvelles de son contrat. Et d'ailleurs, pas beaucoup de déco par rapport aux négociations entre les Sens et le joueur. Jacob Chychrun, qui ne joue pas son meilleur hockey dernièrement, attire quand même l'attention à travers la Ligue nationale. Donc Steve Steos a reçu certains appels pour voir si le défenseur était disponible. On peut maintenant manger un Brady's Burger au centre Canadian Tire et vous procurer des vêtements à la boutique des Sens dans le cadre du programme Ketchup Captain. Les Sénateurs ont eu un petit maigre soulagement dernièrement avec la victoire à l'arraché contre les Sharks de San Jose dans les dernières secondes du match. Justin Peters, lui qui était entraîneur des gardiens à Belleville, devient maintenant l'entraîneur des gardiens à Ottawa. Bjork, l'ancien, est maintenant dans l'équipe de recruteurs. Matt Saugard n'a pas eu la vie facile à son premier match. A été mis sur la glace contre McKinnon, Rantanen et McCarr. Donc, résultat du match, défaite de 7-4. Max Guénette représentera, notre ami de la brigade, représentera les Sens au match d'étoiles de la Ligue américaine en compagnie de Angus Cruikshank. Et notre ancien porte-couleur des Sens, Tyler Ennis, lui qui a joué 118 matchs avec les Sens, a pris sa retraite.
Une légende.
Oui, une légende. Et au niveau de la LPHF... première victoire de la franchise contre l'équipe de Toronto 5-1 et eux aussi feront un match d'étoiles et c'est Jenner, Harmon, Clark et Mash Meyer qui représentera l'équipe d'Ottawa.
Est-ce qu'on sait la formule de leur match des étoiles eux autres?
C'est un 3 contre 3.
C'est un 3 contre 3 dans le cadre du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.
Exact.
Ah ok, ça va être en même temps. Ouais. Ok. Ouais.
D'ailleurs, tant qu'à parler de la Ligue féminine, Marc, toi, est-ce que c'est une ligue qui t'intéresse, qui t'interpelle? Est-ce que tu suis?
Oui, non, vraiment pas. Non, mais je vais t'expliquer. Elle ne m'interpelle pas dans le sens que je vais suivre les activités parce que c'est une équipe de la ville. Je suis curieux, on connaît plusieurs des joueuses d'ailleurs. On les a vues aux Jeux olympiques et tout ça. Et je veux vraiment que ça fonctionne. Moi, c'est pour ça que je vais la suivre dans le sens que je veux que ça fonctionne parce que peu importe la ville, c'est une équipe de sport, on l'a dit tantôt avec les Sénateurs, sport majeur, mais peu importe le sport, puis surtout à Ottawa, là, on en a vu des équipes de sport professionnelles passer, peu importe la ligue, que ce soit au soccer, au baseball ou tout ça, c'est un feu roulant un peu. Je veux que ça fonctionne, et surtout, je veux que ça fonctionne pour les jeunes filles qui jouent au hockey, qu'il y ait des modèles, qu'il y ait des débouchés aussi. Je trouve ça extrêmement intéressant qu'ils peuvent avoir des débouchés. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? En ce moment, ça va fonctionner. J'ai hâte de voir le modèle pour l'an prochain parce que là, on est allé un petit peu à pleine vitesse. Évidemment, c'est une saison qui est chamboulée un peu. On a débuté en janvier, mais tu sais, il manque de détails pour les prochaines saisons. Est-ce qu'on va débuter en septembre-octobre? Est-ce que ça va être une saison de 50-60 matchs? Parce que là, plus tu mets des matchs, plus ça va être difficile, je pense, de garder cet attrait-là. Là, tu as moins de matchs, il y a l'effet de nouveauté. J'ai hâte de voir ça dans les prochaines années. Moi, j'ai hâte de voir dans 3-4 ans, puis j'ai hâte de voir les gens, la population qu'on va cibler. J'espère qu'on cible les jeunes filles et les femmes. J'espère qu'on cible pas l'amateur de sport, là, celui qui regarde la NFL le dimanche, puis qui, tu sais, parce que je pense qu'ils vont le perdre dans le sens que le calibre de hockey, on le connaît, c'était documenté, c'est du midget 3 environ, OK? Un petit peu moins physique. On les avait vus, les femmes, il y a 2 ans, l'équipe nationale avait joué des matchs contre l'équipe nationale canadienne des moins de 17 ans qui était à Ottawa. On avait fait 3 clubs des moins de 17 ans, donc les meilleurs midgets au pays qui jouaient contre l'équipe nationale des femmes. Et ça avait été dévolé, là. Honnêtement, les jeunes hommes avaient gagné relativement facilement tous les matchs. Et puis, c'est un petit peu là que ça me fait peur parce que ce type de calibre-là, tu le retrouves un peu partout dans la région. Donc, à un moment donné, si l'effet nouveauté passe et que tu cibles l'amateur de sport en général, j'ai peur qu'on se plante du côté de la Ligue. Mais si on cible un public qui ne va pas, par exemple, au match des Sénateurs ou qui veut faire les deux, mais qui serait vraiment attiré parce que c'est des femmes, je pense qu'on doit miser là-dessus. Moi, je pense que c'est la seule façon que ça va fonctionner. Sinon, ça risque d'être problématique un peu. Donc, à suivre. Mais moi, j'espère que ça fonctionne. Mais moi, ma relation avec le sport féminin puis le sport masculin également, si un sport qui est pratiqué, je peux le faire chez nous puis je vais être aussi bon, j'ai de la misère à suivre. Puis c'est autant masculin, là. Il y a certains sports que tu regardes, tu te dis, hey, écoute, avec un peu de pratique chez nous, je sais pas ce que vous comprenez, mais dans le sens que.
Tu vas être impressionné,
Une femme qui joue au tennis, les meilleurs au monde, monsieur, madame, tout le monde peut pas y battre. Que ce soit un homme, là, tu vas en manger toute une. Même chose au golf, même chose en ski alpin. Si tu descends à 130 000 à l'heure sur 2 planches de bois, c'est pas vrai que, tu sais, un gars qui disait, hey, moi, je suis pas pire en ski, là, je suis pas professionnel. Mais non, tu seras même pas proche.
Je suis musclé, je suis fort.
Exactement. Ouais. Donc, c'est la même chose. Mais la journée que certains sports que tu dis, ouais, tu sais, une équipe amateur peut rivaliser avec certaines des formations. Je trouve ça un petit peu difficile. Donc, j'ai hâte de voir l'approche qu'on va faire. J'ai hâte de voir quel public on va cibler. J'espère vraiment que ça fonctionne, mais vraiment. Mais je pense qu'on va avoir une réponse dans 3-4 ans, voir dans quelle direction on va avoir pris au niveau de la Ligue.
Il y a 2 choses que tu as dit au début qui ont été confirmées. Oui, la saison prochaine va commencer plus tôt. Et oui, il y aura plus de matchs dans l'année. Cette année, c'est vraiment une saison hybride, bizarre. Mais moi, un aspect que je trouve intéressant, par exemple, c'est... Moi, j'ai un jeune enfant, puis aller voir les Sénateurs avec un jeune enfant, ça coûte les yeux de la tête. Aller voir, tu sais... Mais aller voir ces femmes-là jouer avec lui dans quelques années, quand il va être un peu plus vieux, ça va être abordable. Je trouve que ça va être vraiment intéressant. Tu sais, il y a cet aspect-là un peu plus... carrément abordable pour justement des gens qui veulent voir du sport de haut niveau.
Mais parce que tu l'as pour le junior majeur également, tu as les 67, tu as les Olympiques, tu as l'Intrépide de Gatineau qui est sensiblement la même chose. Puis écoute, je veux pas. Moi, une fois ma carrière terminée au hockey, là, j'ai joué dans des ligues de bière. Là, OK? Mais c'est des anciens juniors, c'est des anciens pros. C'est clair que ces équipes-là, tu vas dans une aréna à 11h du soir, puis il y a probablement des équipes qui sont meilleures que le calibre qui est là, c'est juste ça. Fait que j'ai hâte de voir l'enrobage autour, la promotion qu'on va faire autour de ça pour justement accrocher les gens puis développer peut-être quelque chose à plus long terme. Parce que c'est quoi? C'est la 3e, 4e ligue qu'on tente, là. Je sais que ça semble bien plus structuré. Il y a beaucoup plus d'argent d'investi, là, les gens qui sont derrière ça. Mais, tu sais, faut que ça soit du solide. Puis si l'argent est là, ben peut-être qu'on va se donner une chance de le faire 3, 4, 5 ans pour bâtir quelque chose. La WNBA, là, je me souviens au début, il y a eu l'effet de nouveauté, ça a duré 2 ans. Par la suite, ça a dérapé pas à peu près. Mais on a tenu le coup. On a gardé la Ligue en vie. Et là, il y a un public, c'est du 12, du 13, du 14 000 personnes. Les femmes sont payées. Ils ont d'excellents salaires. Ils peuvent vivre avec ça. C'est vraiment un débouché. Puis la Ligue partira pas, tant mieux. La NBA est associée, par exemple, à cette Ligue-là.
C'est ça.
Donc, peut-être qu'éventuellement, tu sais, si on continue à avoir des 8 000, 9 000, 12 000, comme on a vu au Minnesota, la Ligue nationale de hockey va peut-être dire, ouais, attends une minute, c'est intéressant, on peut s'associer, il y a un public pour nous là-dedans. On va peut-être donner aussi des concessions à d'autres villes là, dans la Ligue, parce qu'on peut jumeler le produit, on a les installations. C'est ce que je souhaite, moi, à long terme pour la Ligue.
Puis tu penses que c'est une obligation à la Ligue nationale à s'associer avec
eux? Non, mais je pense que ça serait un devoir corporatif de le faire. Puis honnêtement, écoute, la journée qu'ils vont voir qu'ils peuvent peut-être faire de l'argent ou qu'ils peuvent monnayer ça, ils vont le faire. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais moi, je me tiens à dire, si cette ligue-là attire plusieurs jeunes filles, plusieurs femmes, un public qu'on voit peut-être moins dans les arénas de la Ligue nationale de hockey et qu'on a une association entre les deux ligues, tu vas peut-être aller en chercher ce public-là, puis là, on va dire, oh, OK, on a d'autres personnes qui vont acheter des chandails, puis des casquettes, puis qui vont venir au match. Donc, moi, je pense qu'à long terme, je serais pas surpris de voir la Ligue nationale de hockey s'associer. On voit déjà des équipes poser des gestes, comme le Canadien de Montréal, entre autres, qui portait le chandail de l'équipe de Montréal. Les dirigeants qui sont présentés au match d'ouverture, j'ai trouvé ça assez classe parce que le Canadien jouait le soir même. On s'est présenté à Verdun. Ken Hughes était là. Jeff Molson était là. Donc, ça, si on fait ça, je pense qu'on va garder on va garder la trêpe, on va garder l'intérêt.
Vous avez parlé d'expansion tantôt dans la Ligue. J'ai une question pour vous, puis c'est une question que je me suis posée cette semaine. Là, on est arrivé avec 6 nouvelles équipes, toutes dans un rayon quand même assez rapproché dans l'Est. Ça serait quoi la prochaine étape pour la Ligue si tout va bien? Est-ce que ça serait... Est-ce qu'on y va une équipe à la fois? Est-ce qu'on crée carrément une conférence de l'Ouest? Parce qu'à un moment donné, il faut élargir le marché.
Tu continues dans les marchés naturels de hockey.
Comment on fait ça? Est-ce que tu élargis le marché au détriment du produit sur la patinoire?
C'est ça, c'est l'autre
parce
question.
Parce qu'il y en a pas une tonne.
Faut qu'il y ait le bassin.
Le bassin est beaucoup plus restreint au niveau du hockey féminin. Donc, si tu décides, là, tu as 6 équipes dans l'Est, on va en faire 6 dans l'Ouest, comme on a fait dans la Ligue nationale de hockey, à un moment donné, une certaine expansion, c'est beaucoup de joueuses de plus. Mm-hmm. Tu veux pas non plus dénaturer ton produit. Donc, peut-être qu'à long terme, on va le faire. Parce qu'évidemment, ça va générer de l'intérêt, là. Il y a des filles qui veulent s'inscrire au hockey, là, en ce moment, là. Parce que, waouh, c'est le fun. J'ai quelque chose. Hey! Il y a des professionnels qui me ressemblent, qui sont à la télé, puis moi aussi, je peux jouer là-dedans. C'est clair que dans 5, 6, 10 ans, si cette ligue-là dure, le bassin va être énorme. Le bassin va être beaucoup plus grand, donc tu vas l'avoir, le bassin potentiel. Moi, je pense qu'on devrait y aller petit peu par petit peu. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est rajouter une équipe ici et là, mais pas en rajouter 6, 7 d'un coup, parce que je pense que ça ferait mal à la ligue.
Puis tu continues dans des marchés naturels de hockey qui sont déjà des. Un peu comme ils ont fait là, qui sont déjà des marchés.
Si vous n'êtes pas d'accord,
américains,
genre, oui, promener,
peut-être canadiens.
Sérieux,
non,
là?
Non, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens.
Attends, tantôt.
Ouais, OK, c'est bon.
À la première année de la brigade, on a reçu Jade Maisonneuve, qui est une hockeyeuse de Saint-Isidore dans l'Est ontarien. Puis on l'a reçu encore cette année, 2 ans plus tard, maintenant qu'elle joue pour l'Université de Mercier aux États-Unis. Puis dans la première année, ce qu'elle nous disait, c'était « Mon objectif ultime, c'est l'équipe canadienne. Il n'y a rien d'autre. » Puis c'était vraiment intéressant quand on lui a parlé cette année de l'entendre nous dire « Ben, crime, tu sais, finalement, si tout va bien, j'ai un objectif plus atteignable, tu sais. »
Puis dans lequel tu peux vraiment faire carrière.
Exact.
Avec lequel tu peux vivre.
Tu peux vivre de ton sport, c'est ça. C'est
merveilleux. Ouais. En tout cas, je vais dire une chose, puis on passera au prochain sujet. Mine de rien, cette année, j'ai eu 1000 fois plus de plaisir à écouter les matchs de l'équipe féminine d'Ottawa que tous les matchs des Sénateurs combinés. Là.
Ouais, c'était facile, celle-là.
L'énergie. Ouais, je sais.
C'était facile.
Puis c'est peut-être une bonne chose pour eux autres, dans le fond, que les Sénateurs soient tellement peu excitants, mais veux pas.
La porte est ouverte.
Ouais, c'est ça.
T'as raison.
C'est
ça,
exact.
T'as tellement raison. La porte est grande ouverte.
C'est pas la même chose à Montréal, là. Montréal, ça n'emmène pas tellement large non plus. Fait que tout est ouvert pour Marie-Philippe Poulin là-bas, là.
Oui.
Que, oui, voilà. Sinon, JP t'a parlé fiche de 6-15-0.
Faut s'en parler.
Moi, c'est le zéro qui me fait capoter. c'est le zéro qui me fait.
On n'est pas capable de se rendre là.
Deux matchs amenés en prolongation. Deux fois où. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont pas dans le match.
Ouais.
Puis beaucoup des matchs où est-ce qu'il y avait un 2-3 buts d'écart, le match finit 6-4. ou finit 5-3, puis tu dis, bah, tu sais, c'est pas si pire. Non, non, c'était 5-0 après une période, là. Ils sont allés créer une espèce de nous créer des faux espoirs. Là, à un moment donné, en troisième, ils en ont fait deux de suite. Puis là, quand c'était le temps de retirer le gardien, c'était un filet désert ou ils rataient des filets ouverts. Ou c'est qui hier encore il y a filet ouvert pendant qu'il n'y a plus de gardien direct sur le poteau. Parker Kelly écoute, c'est pas à lui qu'on demande ça, là. C'est pas à lui qu'on demande de la mettre dedans, là. Mais
on
dirait
gros,
que toutes les bonnes
t'étais
chances.
Tu étais un professionnel. C'est aussi bien que tu fais d'un gardien de but. Tu sais, moi qui est ancien gardien de but, là, tu sais, gardien de but qui donne un but faible, puis tu perds le match 3-2, tu vas planter le goaler, là. Mais un joueur qui rate un filet ouvert comme ça, là, tout se paye. C'est la même affaire. Mais ça passe dans le beurre. Hein. Ça passe dans le beurre parce que c'est dans le flow du match. Mais
non,
sérieux, tu peux pas rater une chance comme ça.
Fait puis à la question, pourquoi? Sa question, c'était pas. Parce que toi, tu nous as demandé tantôt, JP Ford, pourquoi c'est pire cette année que l'année passée?
Ouais, ben c'est d'ailleurs sur
puis
ça
aussi,
que je veux aller. Parce qu'on se l'est posé lors du dernier épisode, cette question-là, mais on l'a pas vraiment élaboré. Puis on se l'est fait dire sur Twitter par justement je sais pas c'est qui, mais la personne en France qui gère le compte Ottawa Sense FR.
Oui. Oui.
Je te posais la question. C'est une question vraiment intéressante sur que. Puis il était curieux d'en entendre plus. Fait que c'est la question que je vous pose.
Oui.
Comment ça se fait que depuis l'année passée, les choses se sont empirées? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des théories du complot? Qu'est-ce qui se passe?
À quelque part, je pense que ce que ça l'indique, c'est que avant, on pensait qu'on était à un changement, qu'on était à un joueur, qu'on était à un coach, qu'on était proche de partir, puis de prendre l'élan, puis que la base était là. Puis, tu sais, on était à, on a notre Jacob Chychrun, on a notre Korpisalo, OK, tous les morceaux sont là. Mais là, je pense qu'on se rend compte que, un, il manque plus que ça, puis deux, les gars, je pense qu'ils y croient plus. Ils ont plus de l'air à y croire. Ils ont de l'air tannés. Il n'y a plus personne qui joue avec de la confiance, là. Plus personne, là. Puis je sais pas si vous êtes allé voir dernièrement Thomas Chabot de quoi il avait de l'air les quelques premières années qu'il est arrivé avec Ottawa. Il se portait à l'attaque, il montait la rondelle d'un bout à l'autre, il était confiant, il prenait des chances. Quand il manquait son coup, il revenait. Aujourd'hui, ce gars-là a pas de l'air d'avoir confiance, mais pas en tout. Les gars se regardent sur la glace. C'est toi qui le prends. Non, c'est moi qui le prends. Toi, tu prends le défenseur. Moi, je prends le tir. Il y a un but. On voit juste la campagne de Jacob Chychrun a été la source de plusieurs séquences où après un but, il est à genoux, la face à terre en se disant qu'est-ce qui vient de m'arriver encore, tu sais. On dirait que les gars, ils croient plus. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait que avant, ils se disaient on est proche, puis là, il manque un spark, il manque quelque chose.
Mais tu sais, Pascal, tu parles, les Sénateurs sont peut-être pas si proches qu'on pensait. Moi, je pense qu'ils sont encore proches. Dans le sens que, mais on parlait de culture d'organisation tantôt. Puis, tu sais, tu peux pas être dominant comme les Sénateurs l'ont été en début de saison cette année. Même l'année passée, là, je me souviens, après 6 matchs, je pense que c'était 4-2 l'affiche. Ouais. C'était des volées que les Sénateurs donnaient, là, surtout à domicile. Là, c'était impressionnant. La relance était spectaculaire. Ouais. C'était rapide. Tu peux pas passer d'une équipe qui domine comme ça. Tu sais que ça durera pas toute l'année. Mais tu peux pas passer d'une équipe qui montre un potentiel comme ça en régressant pendant la saison. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Puis tu le dis, aussitôt quelque chose va mal dans cette formation-là, on est tellement habitué à ça qu'au lieu de se dire « Non, on va remonter, c'est une mauvaise passe », c'est comme « Ça y est, c'est terminé. On passe à un autre appel. Ça fonctionnera pas. Tu sais, vous avez mentionné, là, ils semblent brisés. Ça prend un reset. Ils sont brisés. Ils sont carrément brisés. Mais ça, tu vas aller plus loin. Parce que là, tu sais, les réflecteurs étaient sur DJ Smith. C'était lui, là. C'était lui le book émissaire. C'était lui qui était mauvais, là. Il était mauvais. Puis en ce moment, il prend de la valeur. Il prend 500 000 par semaine de valeur en voyant la formation des Sénateurs d'Ottawa. Mais c'était lui le problème. Là, on a amené Jacques Martin, puis tu te dis, on va voir, ça devrait changer. Ça n'a pas changé, c'est pire. C'est pire. Mais les réflecteurs, on les met où? On les met ses joueurs. C'est clair qu'il y a un noyau intéressant, mais est-ce que ça demeure le bon noyau? Et il va falloir regarder la personnalité de certains joueurs. Est-ce qu'ils cadrent dans ce que tu veux faire? Puis il y a des joueurs qui pourraient rapporter très, très gros. Puis je suis pas en train de dire d'échanger la moitié de ce noyau-là de jeunes joueurs. On les connaît tous. Mais ça demeure pas moins. Est-ce que c'est ce genre de joueurs-là? Est-ce que c'est c'est certains de ces attitudes-là que tu veux? Est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir performer dans un contexte où est-ce que ça te prend des victoires? T'es rendu là dans ton analyse, là. Parce que là, les coachs, on passe à un autre appel, là. C'est peut-être, ça a peut-être été l'entraîneur, mais clairement, c'est beaucoup plus problématique que le coach, le problème. Donc, en ce moment, les réflecteurs sont sur les joueurs. Puis j'ai hâte de voir d'ici la fin de la saison comment ça va se dénouer tout ça, parce que je pense qu'il va y avoir des grosses décisions à prendre, moi, du côté des sénateurs.
Marc, j'ai une question par rapport à toute la situation. Puis Pascal a levé le point là, à le dernier épisode. Puis plus j'y pense, plus ça fait du sens. Puis là, je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le fait que Jacques Martin a un statut d'intérimaire et que DJ Smith était vraiment apprécié de ses joueurs, de ce qu'on entendait dans les médias, fait en sorte que les joueurs n'ont aucun intérêt ou aucune motivation à écouter un plan de match de Jacques Martin, sachant que le statut d'intérimaire et peut-être que ce gars-là ne sera même pas là l'année prochaine?
Peut-être même pas l'année.
C'est une théorie qui mérite d'être discutée. Absolument. Clairement, on n'est pas dans le vestiaire. On ne sait pas comment ça va faire. Sauf que ce qu'il faut remarquer, le noyau des sénateurs d'Ottawa sont signés à long terme. Hein? Il n'y en a pas de pression d'être échangé, puis il n'y en a pas de pression d'être congédié. Là. On est signé à long terme. On peut faire ce qu'on veut. Là. On peut dicter la suite des choses pour l'organisation des sénateurs. On peut dicter qui on veut avoir comme coach, puis on peut dicter quasiment pour qui on peut jouer. Ouais. Parce que c'est comme ça. C'est pas les joueurs de quatrième ligne qui ne travaillent pas, là. Ils se donnent corps et âme. Ils n'ont juste pas le talent. Mais eux autres, ils jouent leur vie dans la Ligue nationale de hockey. Là. Que ce soit Martin, que ce soit DJ Smith, que ce soit Spartacat, là, eux autres, ils doivent jouer. Là. Ils s'en sacrent totalement. Ils sont obligés de jouer, ils sont obligés de performer parce que c'est leur avenir dans la Ligue. Mais quelqu'un qui a un contrat de 5-6 ans avec 70 millions de garanties, écoute, on peut attendre 2 mois, puis on l'aimait, Smith, on était bien. Oui, on performait pas, mais on l'aimait, puis il était carrément apprécié des joueurs. Ça, il n'y a personne qui a rien dit contre lui, contrairement à un Craig Berube qui était congédié à Saint-Louis. On a senti certains joueurs qui étaient contents, c'était un soulagement. Du côté de Smith, il n'y a pas personne qui a sauté au plafond. Là. On a même senti de la déception du noyau de joueurs. Donc, moi, en ce moment, je suis pas contre cette théorie-là, dans le sens que, qu'est-ce que tu veux qu'il dise, Jacques Martin? Il sera, comme tu dis, il sera pas là l'année prochaine. Puis on va montrer c'est qui le boss. Ben c'est nous autres le noyau, le boss. Il fait pas rien faire. On est là, on est en selle. C'est nous autres qui mettent.
Là donc là à ce moment-là, est-ce que pour briser ça, le statut de c'est nous autres les boss, c'est comme nous autres qui va décider l'avenir de ce qui va se passer avec ce club-là. C'est-tu de briser ce noyau-là?
Faut sacrifier une brebis.
Ben il y a deux options peut-être, mais l'autre option. Puis on le voit avec les Canucks de Vancouver. Souviens-toi lorsque Rick Tocchet est arrivé là en remplacement de Bruce Boudreau, qui était adoré des joueurs, des partisans, scandait son nom. Le noyau des Canucks n'a pas nécessairement changé. Il performe cette année, c'est une des bonnes formations dans la Ligue. Puis Tocchet, l'année passée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué au méchant. Il a mis des joueurs, des vétérans d'un gradin. Il a critiqué ses joueurs publiquement. Il les a ramassés pendant un mois ou deux, puis c'était tout croche les Canucks. En fin de saison, l'année passée, là, c'était horrible. Cette année, il est arrivé avec la même attitude, mais je pense que les joueurs ils ont réalisé, il n'est pas là intérimaire, lui, il est
l'année
là encore.
Va être longue.
Un moment donné, j'aurai pas le choix. C'est lui qui me coach. Si je veux du temps de glace, j'ai un contrat signé dans 2 ans, je dois performer. Tiens, ça marche pour les Canucks. C'est un noyau qui est similaire à ce qu'on a du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, j'ai hâte de voir la personnalité du prochain coach. Est-ce qu'il va jouer au méchant pendant un certain temps? Puis, tu sais, j'en parlais avec Pascal un peu plus tôt cette semaine. Ça serait le fun de voir le coach en chef de l'an prochain déjà cette année. Arriver avec un mot ou deux pour mettre en place quelque chose que de recommencer l'année prochaine encore une fois dans le camp d'entraînement.
Parce que là, Jacques Martin, il se gêne pas là, pour sortir et jouer au méchant. Là.
Ben, jouer au méchant.
Ben, jouer au méchant. Il nomme pas personne.
Pas méchant,
il lance ses messages.
Il lance ses messages
comme il a dit aujourd'hui. Là.
Mais il se retient pas dans ses commentaires. Là.
Non.
Pour leur
lui,
dire qu'ils sont une gang de pourris et qu'il faut qu'ils se regardent dans le miroir.
Ouais, mais
ils
ne seront pas là.
C'est ça.
Exact.
Il fait le constat. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va être là jusqu'à la fin de l'année en tant qu'observateur. Parce que je pense que le mandat que Stéos lui a donné, c'est rentre dans la chambre, prends le pouls de la chambre, puis identifie-moi c'est qui les vrais, puis c'est qui de qui on doit se débarrasser. Parce que si c'est ça l'attitude des joueurs, si c'est ça de dire « Oh, ben nous autres, gars, on est signés, on est ici, on est ça, on peut faire un peu ce qu'on veut », c'est un maudit manque de professionnalisme. T'es un athlète professionnel, embarque sa glace puis performe, peu importe le coach. Mais c'est des humains.
Ton orgueil aussi.
C'est des humains. Puis comme on disait, c'est un paquet de jeunes qui sont arrivés, qui ont fait peut-être un an à Belleville. Après ça, qui ont été montés sur la première ou sur la deuxième ligne tout de suite, sans avoir besoin de travailler, ils ont eu quelques belles performances individuelles. Josh Norris, qui a eu une saison de quoi, 30-35, il a-tu pogné le 40 buts. Il y avait un pourcentage d'efficacité de tir versus but qui était complètement hors norme. C'était comme impossible que ça continue. Il est allé décrocher son gros contrat avec ça. Les gars ont le gros contrat. Personne ne les a appris à jouer de la bonne façon. Ils les a appris à se battre pour leur poste. Ils les a appris à jouer défensivement, à jouer en unité de 5. Le coach les a toujours dit « rah, 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 let's go, travailler fort. L'important, c'est de grinder, grinder, grinder. » C'est tout ce qu'ils ont appris. Mais si c'est ça l'attitude, ma crainte, c'est que ce noyau-là, avec les années, a pourri. Puis qu'il y a certains joueurs qui peut-être sont peut-être pas récupérables. C'est ça leur attitude, c'est la façon qu'ils ont évolué.
Mais tu fais quoi, Pascal?
Puis c'est peut-être le temps d'en changer.
Tu fais quoi, Pascal? Mettons, là, le rôle de Martin, c'est bel et bien ça, puis il arrive, là, puis ouais. À la fin de l'année, il va voir Andlauer, puis il va voir Stejos, puis Dave Poulin, puis il lui dit, Stoudzla, Norris, puis Batterson, là, c'est pas des restes, pas des leaders. Oubliez ça, tu fais quoi avec ça? Non, mais c'est parce que...
Je pense pas qu'il faut se débarrasser de tout, mais c'est sûr qu'il... C'est sûr qu'il va avoir un message. Ça va commencer par un message, je pense. Ça va commencer par un joueur, puis ça va être, écoute, puis ça va être le pire, j'imagine, tu sais. Puis ça va être donné un exemple, comme les boys get it together, mais ça va passer par le prochain coach. Fait qu'encore, on est encore en maudite attente qu'on n'a pas de DG, on n'a pas de coach, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Là, il y a tout le temps quelque chose qu'il faut qu'on attende. En tout cas, le deuxième étage est réglé, le deuxième étage, c'est signé, c'est fait. On sait ça va être qui pour longtemps. Ça a décidé le coach, mais on n'est même pas à la moitié de la saison.
Ça, c'est triste en tabarnouche.
T'as aucun bon sens.
Mais avez-vous pensé que il y a des maudites bonnes chances que cette reconstruction-là n'aboutisse jamais à rien? Là.
Peut-être. Ah oui, c'est possible.
Peut-être.
Hey, comment décourageant dans 5-6 ans qu'ils nous annoncent un autre retool.
Je ne veux pas vous faire peur, mais tu sais, les Sabres de Buffalo, ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Ça fait longtemps qu'ils sont en reconstruction. C'est la même affaire, là. Puis c'est pas proche encore, là. Ouais. T'sais, les Wings de Détroit, on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel, mais c'était très, très long. C'est pas évident. T'sais, des fois, ça a l'air simple. Là. On a un plan de 3-4 ans, on fait une reconstruction. Oh, oui, mais attends une minute. Là. Tu vas-tu avoir les bons éléments? Tu vas-tu avoir le bon caractère? C'est pas facile à le faire. On l'a vu avec les Oilers d'Edmonton, entre autres. Donc, il n'y a rien garanti là-dedans. C'est triste, mais t'as raison. Puis, dans 5-6 ans, c'est la même situation.
Avant que Chicago se mette à gagner avec les Tays puis avec les Kane puis tout ça, ils ont été longtemps l'équipe pas bonne. Puis ça revient à quand c'était le temps de rebâtir. On voit qu'aujourd'hui, les seuls gars ou les quelques seuls gars, on voit présentement l'importance d'un gars comme Claude Giroux, d'un vétéran dans l'équipe. C'est le seul, là, c'est le seul qu'on voit la langue à terre, puis le seul qui a de l'air encore à carry, là, pour dire en français. Puis c'est le genre de joueur qu'on a complètement tout envoyé au bout du monde quand c'était le temps de reconstruire, puis on a gardé juste des jeunes, puis on a essayé là, d'aller chercher des gars de Bredson, décider ça, mais ça n'a jamais été les gars qui... Fait que c'est peut-être une des erreurs pendant la reconstruction. Donc, à ne pas refaire. Fait que, tu sais, le monde dit, ah, ben là, Giroux nous rapporterait, Tarasenko nous rapporterait. Ben, écoute, c'est des gars qui sont prêts à rester avec l'équipe, puis qui, tu sais, ils veulent rester, puis ils ont déjà gagné dans le passé. Tarasenko a déjà gagné, puis s'ils disent, non, moi, je t'installe à Ottawa, je suis bien là, ben, gardons-le, puis ça a une valeur pour les prochaines années.
Pis c'est fort ce que tu disais par rapport à la question, qu'est-ce qui fait que cette équipe-là ne soit pas au même niveau que l'année passée, ou ben, soit pas. Regarde juste les statistiques, c'est du 4-5 buts par match, c'est la pire équipe pour accorder des buts, c'est une des pires équipes en désavantage numérique, le powerplay ne fonctionne pas autant que l'année passée, il y a plein de situations qui fait que cette équipe-là soit dans cette position-là, puis au-delà des statistiques, moi je trouve qu'il y a un gros manque d'engagement de plusieurs joueurs. Puis cette équipe-là est tellement fragile, puis on l'a encore vu le match contre le Colorado, ça a pris un but dans la dernière minute de la deuxième période pour faire 4-3, ouais. Puis que le doute soit installé.
C'était fini.
On est arrivé en troisième, dépité, le doute d'un culotte, puis ça a parti du mauvais bord, puis ça a fini 7-4.
Il y a des choses pires que ça d'un culotte, mais puis là, on va venir au sujet, au cheval dans la salle de bain, si on veut, les gardiens de but. Puis moi, on va en profiter qu'on a un gardien de but avec nous autres. Marc, t'as probablement été dans des bonnes équipes, puis t'as probablement été dans des mauvaises équipes, right? Puis quand t'es dans une mauvaise équipe, puis ça va mal en avant, puis tu te fais bombarder, puis tu sais jamais ce qui va se passer, tu dis un 2-1, prends ton homme, moi je vais prendre le tir, c'est pas ça qui se passe, ça dévie sur le patin, puis il te rentre dedans, finalement ça rentre. On voit depuis plusieurs années, il n'y a pas un gardien qui a été capable d'arriver puis de performer avec les Sénateurs. On a amené des bons gardiens. On a eu des bons gardiens. Talbot est allé au match des Étoiles, est venu être pourri à Ottawa, puis retourne au match des Étoiles cette année. Comment se sentent les goalers quand c'est le chaos en avant d'eux autres comme ça? comment ça joue sa confiance? Parce que gardien de but, c'est quoi? 80 % dans la tête? 90 % dans la tête?
Ouais, mais écoute, c'est clair, à un moment donné, si tu connais le contexte, tu le sais, mais tu dois être bon quand même, Pascal. Je comprends que c'est pas facile, mais si tu regardes le rendement de Korpisalo cette année, puis de Forsberg, mais dans le cas de Korpisalo, moi, j'ai je suis aucunement surpris de ce qu'il a. C'est ce qu'il a offert depuis le début de sa carrière. Puis moi, je l'ai dit, lorsqu'on l'a signé, je comprenais absolument pas cette signature-là en pensant que ça devenait le gardien numéro un des Sénateurs quand il a jamais été gardien numéro un dans la Ligue nationale de hockey sur une longue période. Il l'a été un, deux mois avec les Kings
historique
en passé.
Historique de blessure aussi, temps temps. C'est ce qu'on disait.
Oui, puis on a ramené un gardien qui a un historique de blessure parce qu'il est spectaculaire. Là. Korpisalo, honnêtement, ouais. Moi, c'est le genre de gardien que j'aime regarder. Fleurie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile, donc ce qui fait que tous les arrêts semblent spectaculaires. Il est toujours en split, il est toujours en train de nager, mais quand ça donne que c'est un bon match, tu te dis, waouh, on a un gardien étoile, on a un gardien spectaculaire. Mais le nombre de buts que ce gars-là donne, de mauvais but, surtout dans le haut du filet avec un 6 et 3 comme ça, c'est tout simplement pas normal. Mais c'est l'histoire c'est l'histoire de sa carrière un peu. Forsberg aussi manque de régularité. Forsberg a eu un bon 3 mois, l'a signé à long terme et depuis ce temps-là, ouais. c'est pas évident. Puis, tu sais, le changement d'entraîneur qu'on a vu cette semaine, vous mentionnez Zach Burke qui a quitté, devient recruteur, c'est pas anodin, là. C'est pas anodin parce qu'il y a eu aucune progression pour les gardiens de but. Puis Justin Peters, qui est en train de faire avec les gardiens de but de Belleville cette année, du moins, c'est du bon travail. Puis Justin Peters, l'an passé, était monté avec les Sénateurs d'Ottawa pendant un mois, alors que Zach Burke avait subi une commotion, avait reçu une rondelle sur la tête pendant une pratique. Et c'était le mot où est-ce que les gardiens des Sénateurs ont été performés pendant la saison. Donc, je pense qu'on attendait juste le moment opportun pour le faire, pour changer. Et surtout, tiens, Saugard qui arrive en même temps. Donc, c'est l'élève de Peters également. Lui, j'ai hâte de voir la suite des choses. À 6 et 7, gardien très athlétique. Il y a quelque chose à faire en ce moment, puis je dis ça souvent, il garde les buts comme un gardien de 5 pieds 10. Malheureusement, il est souvent très, très bas sur la patinoire. Souvent, il est à l'extérieur du filet. La journée qu'on va lui montrer, à limiter ses déplacements, parce qu'avec son gabarit, là, puis ses capacités athlétiques, il va devenir un très bon gardien. Il l'a montré dans la Ligue américaine. Hier, il semblait très nerveux. Moi, j'ai vu des tendances que j'ai vues dans les dernières années. Il a perdu son bâton, je pense, 5 ou 6 fois pendant le match. J'ai aucune idée comment tu peux faire ça. Mais si à plus long terme, on l'amène avec un style un petit peu plus solide, plus passif, j'ai l'impression que les Sénateurs ont peut-être leur gardien du futur dans les mains.
Mais en même temps, il n'y a pas d'autre option, là. On l'a tout liquidé à Belleville dans les gardiens dernièrement.
Bayamendo puis Maryland.
Ben non,
on espère qu'il y a une espèce de suite logique dans. Mais oui, tout de suite, tous les bons qu'on avait, les deux autres qu'on avait, ils ont du succès ailleurs. Les Gustafsson puis Ducourt. Mais est-ce que les gardiens. Parce que c'est ça qu'on dit depuis toujours. Montre-nous une bonne défensive, je vais te montrer un bon gardien. Est-ce que tout d'un coup, les gardiens vont bien à Belleville? Parce que l'équipe va bien à Belleville, puis ils profitent. Parce que regarde Colorado, là. Il envoie un de le gardien de but au match des étoiles, puis le high test là, qu'on appelle, là, c'est pas un gardien de but tout étoile. Ben,
efficacité, Georgiev efficacité en bonne défense.
Il perd son bâton 2-3 fois, mais il y a une fois qu'il y a un défenseur entre lui, il fonce dedans, entre lui puis le filet, son bâton respire là. C'est tellement le chaos en avant d'eux autres.
Mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas, par exemple. Il y a quelque chose que je comprends pas. T'sais, historiquement, du côté des Sénateurs, il y a eu des gardiens comme Craig Anderson, on peut dire qu'il a eu une solide carrière dans la Ligue nationale. Il a fait la job avec les Sénateurs d'Ottawa, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là. Honnêtement, il était constant, ça a bien fait. Lalime, à ses débuts, il était très bon aussi. Là. Je sais qu'on n'a pas aimé ce qu'il a fait en série. Ça demeure pour moi qu'il a donné du bon hockey aux Sénateurs d'Ottawa. Mais règle générale,
la liste s'arrête là.
C'est difficile. Oui, mais c'est ça.
Tu viens
c'est
faire difficile. La liste.
mais ce qui est drôle, là, moi, je dis toujours que des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, c'est comme les porteurs de ballon dans la NFL ou des releveurs au baseball majeur. Ils entraînent partout. Puis on l'a eu l'exemple. L'an passé, les Vegas avec Aiden Hill. Sorti de nulle part. Il est solide. Il gagne une coupe. Craig Bennington avec les Blues de Saint-Louis. Il sort de nulle part, fait un job. T'sais, Chris Osgood dans le temps avec les Wings. Des gardiens comme ça, ils entraînent. Mais pourquoi chez les Sénateurs d'Ottawa, ça arrive jamais ça? Ça arrive jamais que tu ramasses un gars qui, je te parle pas d'une performance comme Hammond là, sur 4 mois, là, mais qui va te donner 4-5 ans de hockey
on pensait
solide.
Que c'était ça avec Forsberg.
Oui, de hockey solide.
On pensait.
Il n'y a rien à faire du côté des Sénateurs. Ça me fait penser aux Flyers de Philadelphie. Si tu es un gardien de but, tu mets cet uniforme-là, tu n'es pas bon. Tu es obligé d'être pas bon. C'est un règlement. Je ne sais pas si ça n'a pas de bon sens.
Pascal a dit tantôt, moi, une bonne équipe de hockey, je vais te montrer un bon gardien de but. Je ne peux pas prendre l'exemple de Talbot qui s'en retourne au match des étoiles et se dire il n'y a pas un problème en avant de cette équipe-là d'un point de vue défensif, des revirements à tout bout de champ, on en voit à tous les matchs. C'est tout cela qui essaie de faire un move de trop, qui l'échappe, qui la donne, ça donne un 2-contre-1. On voit ça régulièrement. À un moment donné, les gardiens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, justement. Il faut leur laisser aussi une chance, je vais dire, mais c'est pas le bon mot, mais...
Le problème, c'est pas les gardiens, mais les gardiens font partie du problème. Tu sais, ça... J'ai rien qu'exonoré puis exaucé dans la tête, mais on peut pas les libérer de tout blâme.
On va les canonifier, Pascal.
Craig Anderson. Mais on s'attend à plus. Parce que même si tu regardes, là, tu dis, OK, on va aller voir les stats avancées. On va aller voir c'est quoi que ça dit, ce qu'ils sont capables de c'est fou, là, les stats avancées. Aujourd'hui, il y en a à l'infini, là. Je pense que c'est goals above expected, de faire comme ça, tu sais, là. Puis ça, ça va chercher un peu le nombre de tirs, le nombre de chances. Ça prend en compte un peu plus que juste les tirs. Parce que comme je disais l'autre jour, les tirs, à un moment donné, est-ce qu'on se tire quasiment dans le pied en disant « Hey, là, faut tout bloquer les tirs, faut qu'il n'y ait rien qui passe. » Puis là, t'as un gardien qui fait 10 minutes qu'il n'y a pas eu de tir. Puis là, il y a un échappé puis un 2-contre-1 dans 30 secondes, c'est deux buts.
Mais tu sais, selon moi, là, le Canadien de Montréal est aussi croche que les Sénateurs d'Ottawa en défensive. Là. Quand tu regardes leur match, là, c'est aussi croche.
Tu penses?
Ben oui, le nombre de surnombres qu'on donne et de chances de marquer.
Ouais.
Sauf qu'il y a deux semaines, tu regardais les statistiques avancées, la statistique que tu as mentionnée, Pascal.
Ouais.
Puis dans les cinq premiers, tu avais trois gardiens du Canadien. Allen, Montembeau puis Primo. Elle est là, la différence. Le Canadien joue proche de 500, puis ils ont 16 matchs qui se sont rendus en prolongation. Tu sais, tantôt, vous mentionnez, les Sénateurs sont jamais dans le coup, on n'amène pas les matchs en prolongation. Ben, le Canadien, c'est ça la différence. Puis on n'est pas loin d'une saison désastreuse, là. Quand tu vois 16 fois en prolongation, là, ça peut être 16 défaites, ça, là. Tu sais, mais si tes gardiens ont des statistiques avancées assez intéressantes, ben, ça fait peut-être en sorte que t'as de l'air meilleur que t'es vraiment parce que le différentiel du Canadien est encore atroce en ce moment. Là. Si tu regardes la fiche du Canadien en ce moment est illogique par rapport à leurs statistiques. Là. Moi, je suis pas certain que ça va durer, mais ça l'explique peut-être ça.
C'est peut-être une bonne affaire. Moi, je suis d'avis que si tu te bases sur tes gardiens pour avoir une chance de gagner puis pour gagner des matchs à chaque soir, comme ça a été le cas à Montréal pendant des années, je pense que t'es pas sur le bon chemin, tu sais. Fait que, puis tu sais, Craig Anderson, quand il est arrivé, il a un peu brouillé les cartes parce que les Sénateurs s'en allaient en reconstruction. Tout d'un coup, il arrive, il vole des matchs, il réussit à les amener en série, puis on se dit, finalement, on n'est peut-être pas si pire que ça, on est peut-être à un joueur où finalement, on ne reconstruira pas. Fait que c'est peut-être une bonne affaire qu'au contraire, il n'y a absolument rien qui marche, puis on n'a pas le choix, il faut aller analyser tout le reste. Les gardiens n'aident pas à cacher des problèmes, disons. On va essayer de virer ça positif.
On a parlé de la défensive tantôt. Cette année, on a remplacé l'entraîneur-chef. On a remplacé l'entraîneur des attaquants. Là, on vient de remplacer l'entraîneur des gardiens. Mais celui qui demeure, ça demeure celui des défenseurs. Jack. Pourtant, on critique la défensive depuis 4 ans.
Mon oncle Jack.
Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y avait personne pour le remplacer?
Mais non, ça se peut pas, là. Amène Wade Redden, fait quelque chose.
Mais Chris Phillips sur le banc.
Ben, quasiment.
Ben, c'est vrai, ça aurait pu être une idée.
Ben oui.
Rendu là, si tu veux jouer la carte de la nostalgie, là, va chercher Wade Redden.
Oui, il voulait
ramener Alfie.
Il voulait garder exactement quelqu'un qui peut lui parler de ce qui se passe depuis le début de la saison. Je lance des théories, là. Mais moi, j'étais le premier que je pensais qu'il allait partir. Je me disais, si vous changez pas DJ, au moins changez le coach des défenseurs. Première étape, faites au moins ça en commençant. C'est lui qui passe au travers. Tous ces chambardements-là, il est encore là. Jamais je croirais qu'il va être là l'année prochaine. Impossible.
C'est sûr qu'il va être là parce que
tu vas dire ça. Pas avec un nouveau.
Ah non. On va toffer ça jusqu'à la fin de l'année, puis après ça, on se serre la main. Merci pour le service rendu, puis bye-bye.
Ça, c'est une autre question que je vais vous poser. On a introduit un nouvel entraîneur-chef, soit d'ici la fin de la saison ou l'année prochaine. Là, on vient de monter Peters comme entraîneur des gardiens. Si le nouvel entraîneur-chef décide que lui, Peters, c'est pas son homme, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa tête, niaiseux un peu.
Coach des gardiens, je suis pas sûr, c'est aussi...
Habituellement, il y a une année de grâce. Pour les coachs de gardiens, là,
quand
tu regardes historiquement, dans la plupart des formations, on va leur donner une année, voir si c'est un bon fit, parce que t'es pas en lien vraiment avec le coaching staff, dans le sens
c'est
que,
tu
sais, les goalers t'aiment, tu fais un job, souvent les coachs n'ont aucune idée de ce qui se passe avec les gardiens de but, donc ils laissent ça aux coachs de gardiens.
Ils veulent pas le savoir.
Mais, tu sais, c'est intéressant, tu sais, le hockey, c'est un sport de contact, c'est un sport d'amis, tu sais, si un coach en chef arrive, puis il est à l'aise avec un certain groupe de personnes, parce que souvent, tu vas être entouré de personnes avec lesquelles tu es bien. Tu s'en vas à job à tous les jours, tu jases hockey avec eux autres, tu veux pas être entouré de personnes. Donc, selon moi, aussitôt qu'il change de coach, il n'y a personne qui a une sécurité d'emploi du côté des sénateurs de
l'Ottawa.
Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont congédier tout le monde, là. Mais avec un nouveau coach, tu n'as pas le choix. À un moment donné, il n'y a pas un coach qui va dire « Moi, je m'en vais là, puis le DG, il va me choisir mes adjoints. » C'est pas vrai, tu arrives avec ton staff.
Puis, as-tu un nom en tête, Marc, que tu vois là, pour le futur des Sens, disponible comme entraîneur, que tu verrais, puis tu te dirais,
tout le monde veut que tu dises Patrick
Roy. Ça ferait du sens.
Moi, j'aimerais qu'on donne une chance à Craig Berube. Je serais curieux parce qu'il a fait quelque chose d'intéressant avec les Blues de Saint-Louis dans un contexte. J'ai le goût de dire une formation qui avait même peut-être moins de talent. Les sénateurs d'Ottawa qui étaient plus aguerris défensivement, oui. Mais tu sais, on parlait de Bennington. Il n'y a pas de gardien de but là non plus, là, du côté des Blues de Saint-Louis. Berube est arrivé. Il a amené, je trouve, une identité aux Blues que j'aimerais voir du côté des sénateurs d'Ottawa. Tantôt, vous parliez de la hargue.
C'est quoi leur identité?
Vous parliez de la hargue, vous parliez d'un club qui était engagé. Craig Berube, si tu le regardais en arrière du banc, pour moi, si tu arrivais au banc et tu n'avais pas eu une bonne présence, puis il te regarde. Bon, je vais m'organiser pour en avoir une bonne à deuxième, là, tu sais. Parce que c'est ce qui dégage un peu, mais il était aimé de ses joueurs quand même, puis il était aimé d'un peu tout le monde dans l'organisation. Donc, j'aimerais peut-être le voir là, mais c'est clair, des candidats, il y en a un paquet. Mais tu sais, souvent les gens parlent de Benoît Groulx, puis tout ça. Est-ce qu'avec les sénateurs d'Ottawa, tu veux quelqu'un qui n'a pas coaché dans la Ligue nationale de hockey ou tu veux quelqu'un d'aguerri?
Non.
Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. Tu veux un coach recrue? Il a l'expérience, Benoît Groulx, là, et dans l'hockey professionnel depuis tellement longtemps, mais tu veux peut-être quelqu'un qui est aguerri, qui connaît la Ligue, qui a joué, pas qui a joué, mais qui a coaché longtemps pour arriver. Donc, moi, j'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression, moi, j'aimerais bien voir un gars comme Craig Berube derrière le banc des sénateurs.
Ben, ça serait le fun de voir finalement un coach
qui a eu du succès ailleurs.
Qui n'est pas juste un Corey Clouston, de John Paddock, là, tu sais. Quelqu'un qui est un vrai coach, là.
Mais là, on a l'argent, je pense, côté des sénateurs pour peut-être en avoir un vrai coach. Il est là la différence.
Avant, on économisait. Ben oui. Avant, on coupait sur le budget.
Mais il faut tout de suite être préparé quand tu penses à ça. Hein? Tu as quelqu'un qui gère ton club, puis ça va être ta personne la moins payée dans l'organisation, puis qui a le moins d'expérience, mais c'est ton meneur. Mais semble que tu penses à l'envers. Quand tu pars de même, tu penses à l'envers, puis c'était la philosophie tellement longtemps. Puis on l'avait vu lorsque... Brian Murray.
Brian Murray, c'était le dernier vrai coach.
C'était le dernier vrai coach, puis ça a fonctionné pas bien.
Il y a eu Guy Boucher qui a eu un statut. Coach. Là, il avait été entraîneur-chef à Tampa Bay. Mais pour le reste, c'est des adjoints de connaissances d'un de l'autre, puis on l'a mis là. T'sais, Paul McLean, DJ Smith, c'était des adjoints, ils n'ont aucune expérience, on les a mis là. Paul McLean, ça a fait parce que ça a fait une année de temps avec les séries de 2013, je me trompe pas.
Aussi, ça fait lui, il va rester dans mon cœur à toujours pour avoir battu les Canadiens puis tout ce qu'il y avait eu avec les Canadiens cette année-là. Paul McLean, c'est ma légende. Michel Therrien, c'était du bonbon. Mais c'est Melnick qui avait dit justement quand, puis là, je cherchais le nom tantôt, quand le coach de l'ancien coach de Détroit était allé à Toronto. Là,
Babcock, Mike Babcock.
Mike Babcock est allé à Toronto, puis il avait signé.
T'aurais fallu que tu dises ancien coach des Blue Jackets.
Excusez, je vous ai enduit en erreur. Il avait dit, quand il était allé à Toronto, puis il avait signé pour des millions, il avait dit, qu'est-ce qu'ils font ces coachs-là pour gagner des millions? Ils marchent sur l'eau? Tu sais, c'était comme ça qu'il pensait, là, Melnick. Là. C'était vraiment... Fait que ça explique la panoplie de coachs sans expérience qu'on a eu pendant des années. Mais cette période-là est finie. Puis on a l'argent pour aller chercher un bon coach. Puis là, je pense que Stéos veut... Il nous parle de patience, puis de ci, puis de ça. Mais je pense qu'il va attendre à cet été pour avoir toutes ces... Parce que s'il l'a pas nommé cette année, c'est parce qu'il l'a pas son nom. Il l'a pas. Celui qui vise ou ceux à qui il pense, soit sont déjà pris ou sont fait qu'ils... Dans ma tête, il y a quelque chose dans sa tête pour cet été. Mais espérons qu'il se le fera pas voler par quelqu'un.
Oui, il veut pas l'amener d'un contexte qui est défavorable. Mettons qu'il sait c'est qui son coach, puis il y a déjà des discussions, puis tu l'amènes dans le contexte où est-ce que les sénateurs, ça va bien. Vous mentionnez tantôt, l'équipe est brisée. Mettons que ça finit mal. T'amènes ton nouveau coach, puis ça finit encore tout croche cette année. Fait que ça repart sur des bases tout croche l'année prochaine. Tandis que si on l'amène, puis on part à zéro, c'est un nouveau coach, nouveau personnel. Ça va peut-être être plus simple pour tout le monde.
Un peu plate pour Jacques Martin, ça. Qui se ramasse à pelleter
ça aurait pu virer du bonbon.
Ouais, c'est pour ça que hier, j'ai tweeté, j'ai dit, d'après moi, Jacques Martin est sur le bord d'arriver d'une conférence de presse puis dire, fuck it, I'm too old for this shit. Puis ça,
je suis tellement en Floride. tout avant.
Oui, c'est ça. Non, mais ce qui est ça fou, c'est que sur papier, le fit entre Jacques Martin et les sénateurs dans ce moment, c'est tellement parfait d'une manière.
Oui.
Ce que les sénateurs manquent, c'est ce que Jacques Martin peut leur emmener, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Jérôme Henry, la nomination est aussi unanime. Pas. Unanime par les gens. Lorsqu'on a nommé Jacques Martin, il n'y a pas eu de critique. Du moins, il y a peut-être quelques-uns ici et là, mais ça semblait unanime. Les gens, parfait, il va emmener une structure, il y a l'expérience, c'est exactement ce que ça prenait. C'est une équipe qui est similaire quand il a commencé. Beaucoup de talent, de jeunes talents, c'est merveilleux. Non, c'est plus la même philosophie, je pense, au niveau des joueurs, ce qui fait que Jacques Martin il s'est retrouvé dans une situation qui doit se dire « Oh, ça a changé, ça a changé. Ouais. »
On pensait que ses années à Pittsburgh, puis tu sais, d'être resté dans… Parce qu'il est resté dans le game, il n'est pas parti…
Avec les Rangers, il y a deux ans.
Sur sa ferme. C'est ça. Il n'est pas parti sur sa ferme un peu comme l'ancien coach de Calgary pendant 10 ans, puis ils sont allés le rechercher. Là. Fait que je pense qu'on est pris avec ça jusqu'à la fin de l'année, puis la date limite des transactions va en dire long.
Ça va être intéressant pour vrai.
Ouais.
Voyez-vous des grosses transactions arriver? Tranquille, profondeur.
Ben, date limite des transactions, c'est souvent des rentals, tu sais, c'est des joueurs de location.
Pas là.
C'est ça.
Kubalik, Tarasenko, ça pourrait être des joueurs qui pourraient partir. Moi, je suis curieux un peu de savoir. Là, Jakob Chychrun, est-ce que tu le vois dans ton avenir? T'sais, là, il va rester 2 ans à son contrat, il me semble,
prix qu'il gagne.
À 4,6. Mais là, tu sais, après ça, si tu veux le renégocier, il va coûter cher. Est-ce que.
Pas comment il joue là.
Non, pas comme il joue là.
Il est pas en train de se négocier un gros contrat. Là.
Non, c'est sûr.
Mais au moins, il n'est pas blessé.
C'est ça. Puis
au moins,
c'est ma crainte.
Au moins, il joue.
D'habitude, il est
tout
il
le temps.
Blessé.
Je me dis, on va l'avoir une demi-saison, deux tiers de saison. Puis quand on va l'avoir, on va être content. Puis à date, c'est l'autre, c'est Chabot qui. Mais avant ça, là, on a Josh Norris qui revient pour la game du 21. Puis là, on a trop de centres.
Ben, Shane n'est pas
plus. Shane Pinto qui revient le 21.
Oui. Ouais.
C'est Josh Norris, on n'a pas beaucoup de détails sur sa blessure, mais à coup que tout le monde est là, on a un centre de trop. Rook Chartier, il reste là.
Mais tes questions.
S'il va sur la 4, il va sur la 4, mais encore là, Castellic. J'entendais parler, il faut tasser quelqu'un à l'aile, puis l'idée de bouger Josh Norris à l'aile. Les gars de Lockton qui parlaient de ça justement. Parce que Norris, cette année, c'est pas un gars qui va d'un coin, c'est pas un gars qui va dans circulation. Puis c'est un gars qui a un excellent tir. On a parlé tantôt de son pourcentage d'efficacité de son tir. Ses mises au jeu, c'est comme ça qu'il s'est blessé 2 fois. Pourquoi pas garder Ridley Gregg au centre, sa première ligne, qui est tout feu, tout flamme. En tout cas, on va avoir un peu de mouvement juste en ramenant Shane Pinto. Il va falloir commencer à prendre des décisions.
Ouais, mais tu sais, tes mouvements, c'est des joueurs c'est 12e, 13e attaquant.
C'est ça.
C'est pas des gestes qui vont changer
prochaine
l'équipe
Pinto,
comme telle.
J'ai comme l'impression que je vais le voir quand je vais le craire. Je vais le craire quand je vais le voir.
Pourquoi?
Hey, ça fait tellement longtemps qu'on en parle.
Ah,
de Shane
OK, juste pour ça.
Oh, Seigneur, ça peut-tu finir?
Parce qu'il va signer à la baisse.
Il va signer le minimum.
C'est clair. Là, je peux pas croire que son agent va se présenter en disant « Je le veux 2-3 millions
non.
par année. Moi, je pense qu'il va se faire dire je te gage que
c'est
tu le repos, mon chien. »
La queue entre les deux jambes, puis signe ici. Ah ouais, juste ça. Ouais, juste ça. Mais gars, puis ça va être ça pour cette année. Mais même là, je pense qu'ils sont à quelques 100 000 du cap, de toute façon. En tout cas.
Ouais, là, parce que là, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge quelqu'un. Il faut qu'il bouge quelqu'un pour le signer, là.
Oui.
Oui, il faut qu'il fasse de quoi. Ben, il va falloir qu'il descende quelqu'un à Belleville ou.
Mais est-ce que Forsberg est sur la liste des blessés à long terme?
Oui.
Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème.
En attendant. C'est ça. Fait qu'on rachète toujours juste un peu de temps en ayant blessé. Fait que, avez-vous voir ta game jeudi? Hey, ce sera pas beau, là. Ce sera pas beau. S'il faut que Montréal gagne 5 à 1, ce game-là.
C'est sûr qu'ils vont gagner.
C'est sûr qu'on se fait démolir. C'est triste, mais c'est sûr.
Normalement, ils sortent des bonnes games contre Montréal. Des fois, c'est Montréal qui relance. Des fois, c'est justement à jouer contre Montréal, un match émotif, un match que finalement, ils dominent 4-2, 5-1, puis ça leur donne confiance. Mais écoute, ça sera pas beau au CTC.
Être un partisan,
je pense que le monde va juste s'en aller.
Être un partisan des sénateurs, là, je suis pas sûr que je me présente à l'aréna, moi. Parce que la dernière chose, il va y avoir 10 000 personnes avec des chandails du Canadien, tu vas te faire écœurer tout le match, mais tout le match, le Canadien qui devance alors qu'il était pas supposé être là, mais ah, pas du tout, du tout. Je pense que le taux part pas, on va laisser bien à quelqu'un d'autre.
Moi, je pense que j'essaie d'y aller, mais sa galerie de presse, Phil y va avec sa blonde, c'est leur sortie.
Tu fais pas le chaperon.
On prend pour les Canadiens. Non. Fait que moi, je fais le chaperon, mais d'en haut.
D'en haut, tu sais. Soit tes longues vues.
Arrêtez de vous donner des becs.
Mais tu sais, on parlait du Canadien. Ouais. Ils sont encore en ce moment même. Ah, oui. Là.
Ils vont aller en prolongation encore.
Ils vont aller en prolongation, puis juste qu'on est devant. Ah, oui. Puis ils n'ont pas de club. Là. Je regarde ça sur papier, c'est épouvantable. Mais cette équipe-là réussit quand même à être compétitif, rester dans la game, offrir du hockey. Mais ces gars-là,
moi, je suis surpris totalement.
Ionen, ouais, Evans, Armia l'année passée, tout le monde voulait lui arracher la tête. Puis là, il joue ça à deux, puis il fait bien. Trois jeunes sur la première ligne, ça travaille au fond, ils se présentent tous les games.
Mais.
T'écoutes
la radio sportive à Montréal, puis je le sais, c'est rien que ça que j'entends chez nous. Eux autres, ça joue mal, ça va pas bien, la vie est dramatique en ce moment, là.
Ah ouais, moi j'entends le contraire, je trouve.
Il se passe à arriver.
Hey, à chaque semaine, là, ils se mettent à parler des séries. Là, hey, là si c'est, on n'est pas loin. Hey, pour tout d'un coup qu'on peut être. Ah non, non, moi je trouve que c'est un peu de ce temps-là. Là.
Moi, de ce temps-ci, ce que j'ai entendu, c'était que fallait aller chercher de l'aide en attaque pour Martin Saint-Louis. Il fallait faire une grosse transaction bientôt. Trevor Zegras, quelque chose du genre. On est là à Montréal.
Ben, à Montréal, on veut tout le monde pour à peu près un choix de 6. C'est sous temps
échanges qu'on fait, là.
Je vais prendre McDavid, Draisaitl, on va te donner Primo puis un choix de Jack 7, là, puis on va être correct. Jack Eye, il est à Laval.
C'est sûr que Jack Eye vaut un choix de première ronde.
J'ai entendu ça. Hein. Sean Monahan pour un choix de première ronde.
Ben, jamais.
Bon prospect.
Tout vaut un choix de première ronde à Montréal.
Mais ils ont eu des choix de première ronde.
Hey, pourquoi il y a trois gardiens encore à Montréal? Là? C'est parce qu'ils attendent quelque chose. Oublie ça. Il n'y a pas personne qui va donner un choix de deux ou trois pour aller. C'est même pas proche de ça, là. Fait que sont pas nés, sont prêts que ça.
Là, faut que je vous arrête parce qu'on parle des Canadiens de Montréal avec trop de passion. Je vous pose une dernière question et je reviens au match des étoiles comme ça rapidement. Avez-vous vu le chandail du match des étoiles?
Ah, toi puis tes chandails.
Et est-ce que vous l'avez aimé?
Sans commentaire.
Toi, Pascal, je sais que tu vois pas la différence.
Parce que t'es mieux d'inviter Jacob Barrette pour parler.
C'est à l'image de la game.
Parler des chandails.
C'est à l'image de la game.
C'est ordinaire.
C'est clown un peu.
C'est clown un peu, hein?
C'est pas Justin Bieber qui a fait ça? C'est Justin
exact.
Bieber.
Oui, c'est, ouais. Ben,
ah, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est en collaboration avec lui. Hein.
Mais dans quel état il était, Justin, quand il a fait
c'est
ça? Chandail? C'est ça le problème. Tu sais.
Ouais. On parlait de cette semaine que la NFL a Taylor Swift, puis nous autres, on a Justin Bieber.
Les Maple Leafs ont Justin Bieber.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Les Maple Leafs, c'est la Ligue nationale. Fait que.
Marc, on a une tradition à la brigade qu'on appelle les tirs de barrage.
Vas-y.
Okay, JP va te lancer trois questions. Tu y réponds avec la réponse qui te vient.
OK. Donc, la première. Ton idole de jeunesse.
Je pense que t'en as parlé au
début. Ron Extall.
Hein? Ah, OK.
Ouais, Ron Extall. C'est ça, tu l'avais dit. C'est-tu pour ses pattes blanches ou bien?
C'est pour l'ensemble de l'œuvre. Disons que j'aimais jouer du hockey, moi aussi, devant et derrière le filet. Ouais.
Avec,
je trouvais ça. Pis...
Avec ton bouclier aussi pour.
Oui, quelques suspensions.
T'avais un bon
quelques
caractère.
Suspensions,
hein, c'est ça?
Ouais. Ben, c'était une autre époque, là, à un moment donné. Petite anecdote d'ailleurs. Souvenez-vous de Sandy McCarthy qui jouait pour les Flames de Calgary, entre autres. Les Flyers, c'était un gars de 6 et 5, 6 et 4. Je jouais pour le Titan de Laval à l'époque. Match pré-saison. Moi, ma tradition dans le junior, lorsque je jouais un match pré-saison, je sciais mes bâtons avant un peu pour donner un bon petit slashing, mais que le hockey brille sur le joueur comme ça. Tu fais ça une, deux fois d'un match, puis pendant la saison, habituellement, tu es assez tranquille parce que les joueurs se disent c'est un malade, lui. On va garder 3-4 pieds de plus devant lui. Donc, c'est une petite tradition, mais McCarthy s'est reviré. Puis une petite droite qui était sortie assez vite. Mettons que mon casque s'est rendu dans le coin, puis j'ai pas essayé ça.
La deuxième, tu es dans le domaine de la radio, donc je pense que tu vas aimer ma question. Chanter tout ce que tu dis ou dire à haute voix tout ce que tu lis?
Dire à haute voix tout ce que je lis.
Fait que tu t'es conscient qu'à la radio, c'est le son va être au maximum.
Pas de problème.
C'est... Je parle pas fort.
Ouais, sa voix est toujours au maximum.
Parfait. Et la dernière, ton kit de goaler préféré dans la LNH actuellement?
Oh, actuellement? tous les kits de Marc-André Fleury.
Ouais, Marc-André
Fleury. Qu'il met, ouais. Puis, ouais. Tu sais, je pensais que tu me parlais de tous les temps, là. J'étais pour remonter avec ses pattes jaunes. Tout aimé ça. Tout a trouvé ça spectaculaire. Puis moi, tu me regardais gauler junior, j'étais tout en blanc. Fait que, tu sais, loin de ça. Mais Marc-André Fleury a des kits spectaculaires de gardien de but.
C'est vrai qu'il se donne à ses pattes dorées avec les Golden Knights. C'était quand même quelque chose.
Ouais, c'était quelque chose.
Au Minnesota, c'est que c'est calmé dernièrement.
Non, moi, c'est son kit là avec les chandails de style North Star.
Ah, c'est de toute beauté. Puis il y a le vieux masque, je pense que c'était Denis Héron qui gaulait là, un moment donné. Gilles Meloche. Gilles Meloche qui gaulait avec les North Stars du Minnesota. Il y a le même masque qu'il a fait et c'est vraiment spectaculaire.
Fait que Ron Ekdahl, t'as été sympathique au Nordique pendant quelques années aussi.
Il était plus bon.
C'est fun à savoir.
Il était plus bon que les Nordiques. Il était mort.
C'était juste violent.
Écoute, Pascal, les Nordiques, as-tu déjà été bon?
Ils ont été bons, mais au Colorado. Mais non, ils ont été bons quand je les écoutais pas, parce que j'étais trop jeune. Moi, j'ai commencé quand ils commençaient à liquider tout le club au complet. Quand les dernières années de Michel Goulet, puis ils ont réété bons, puis ils sont partis. Fait que moi j'ai juste eu le milieu. De la sandwich au. Une sandwich à la marde, comme on dit.
Dinde, t'as eu les Nord-Dindes, toi.
C'est ça.
T'as eu les Nord-Dindes,
c'est ça, ouais. Ah, c'est le temps d'une dinde, là, en radio. C'était assez nordique, là.
Classique du sang.
Ben, le zoo le matin, ou je sais pas. Ouais. Tu sais, là, c'était ça, là, temps d'une dinde.
Ben, Marc, un gros merci d'avoir joué avec nous.
Ben, merci à vous autres, les gars.
Ouais, c'était vraiment cool.
L'heure a passé comme ça.
Puis, faudrait faire une prise 2 à un moment donné.
Un rappel qu'on peut te suivre, on peut t'écouter les mardis dans le local sportif sur les zones 147 tout à l'heure. Tu as d'autres endroits où on peut te suivre si on est intéressé?
T'es pas très réseaux sociaux, hein?
Non, je suis pas très réseaux sociaux. Écoute, c'est niaiseux ce que je vais vous dire là. Moi qui fais un podcast avec vous autres aujourd'hui, là, j'ai peur de m'échapper, ouais. J'ai peur de faire une niaiserie, j'ai peur de tout perdre, fait que j'aime mieux me tenir un peu loin parce que j'ai une opinion sur à peu près tout. Des fois, être un petit peu plus serré, donc comme ça, je limite les gars. C'est dans ma tête.
Un rappel que le local sportif est aussi disponible en format balado sur toutes les plateformes. Nous, de notre côté, ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On est aussi, vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre plateforme de diffusion de podcasts préférée. Pascal, on l'a dit tantôt, on peut continuer à t'entendre tous les mardis dans le local sportif. Messieurs, avez-vous un mot de la fin?
Ron Ekdahl?
J'aime ça. Ron Ekdahl, c'était donc La Brigade, le seul podcast francophone, 30 centaines du hockey
et le meilleur
de Tom Gatineau.
Merci.
Merci, bonsoir. Ouais.